remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour chères auditrices, bonjour à tout le monde. Nous nous retrouvons dans Onde Femme, Radio Zone 93.8 comme tous les mercredis. Et tout de suite, eh bien, nous avons rendez-vous, non pas comme je vous l'annonçais la semaine passée, avec Noémie Lapsaison, danseuse genevoise, que j'ai retrouvée après chaque étape d'une grande tournée qu'elle a effectuée au printemps dernier en Suisse romande. C'est ce que vous retrouverez la semaine prochaine dans Remue-ménage à 17h30. Mais cette semaine, nous retrouvons nos amis de la librairie des femmes de l'Inédit, Annette Zimmermann et Evelyne Merlac, qui vont nous parler des livres qu'elles ont choisis comme ça et comment elles vont vous raconter comment elles les choisissent, comment on se laisse captiver par une couverture, par un auteur, par un titre ou bien parce qu'on retrouve quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et puis en deuxième partie d'émission, autour des 6h05, quelque chose comme ça, eh bien nous aurons la chance de rencontrer deux femmes qui se font porte-parole d'une association qui a pour nom Fonds 1% pour le développement. Cette association est constituée de fonctionnaires internationaux qui se préoccupent du développement. Vous découvrirez de quoi il s'agit en leur compagnie, à savoir Sylvie Pichelin et Regina Coudeau. Nous les retrouverons tout à l'heure vers 6h05, mais pour l'instant, on s'est rendez-vous avec nos amis de la librairie L'Inédit. Particulier aujourd'hui avec nos amis de l'Inédit, puisqu'on ne se retrouve pas en studio, mais dans ma cuisine, ni plus ni moins, chères auditrices. Vous entendrez des drôles de grincements, c'est mes chaises de table de cuisine. Des fois, on vous l'a caché, mais cette fois-ci, on vous le dit carrément. Alors aujourd'hui, on s'est retrouvés pour discuter un petit peu de nos livres coup de cœur. En fait, ce qui nous intéressait de savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on choisit à un moment donné un livre ou un autre. Des fois, on a entendu parler de tel ou tel livre, donc on l'achète quasiment par recommandation d'autrui, sans savoir du tout ce qu'on va prendre ou en sachant déjà tout. D'autres fois, on est attiré par un quatrième de couverture qui nous plaît bien. D'autres fois, c'est le contenu du quatrième de couverture qui nous intrigue. Bref, alors toutes les trois, on a eu un choix différent par rapport au livre qu'on avait envie de vous proposer pour vos lectures d'été, on ne sait pas, en tout cas pour les temps gris jusqu'aux vacances et peut-être pour les plages ou les montagnes de vos vacances futures. Alors, Evelyne, tu pourrais nous raconter comment toi, tu as choisi ton livre?
Alors, il y a environ 2 mois, j'étais à la librairie L'Inédit, évidemment. Et puis, à l'époque, je travaillais déjà un petit peu sur les livres de Toni Morrison et en général, la littérature, je dirais, écrite par des femmes noires. Et j'avais vu aussi un recueil de nouvelles qui sortait aux éditions Zoé, sur une écrivaine sud-africaine, morte déjà. Et puis, bon, j'étais un petit peu obsédée par ces récits ou ces romans ou ces mémoires de femmes noires qui écrivaient sur elles-mêmes. Et puis, bon, alors, évidemment, il y avait cette couverture et ce titre, « Je suis une mâle blanchie ». Et j'ai pensé tout de suite qu'il s'agissait d'un livre de ce genre. Donc je l'ai pris, j'ai commencé à le lire et je me suis trouvée face à quelque chose d'autre, mais tout à fait passionnant. Mais c'était à ce moment-là ce qui m'a fait m'approcher du livre. Un petit peu le titre et l'idée de penser qu'il s'agissait de l'aventure d'une femme esclave qui s'échappait. Je pensais à un sujet comme ça. Il ne s'agissait pas du tout ça, comme on va le voir tout à l'heure.
Mais quand même, effectivement, on peut lire comme sous-titre du titre, donc « Je suis une mâle blanchie », « La vie aventureuse d'une cousine de l'oncle Tom, 1805-1881 ». Effectivement, ça a de quoi titiller.
Oui, mais C'est une cousine très très vague hein, de l'oncle Tom, parce que d'abord c'est une femme des Caraïbes qui n'a rien à faire avec les États-Unis, hein, et l'oncle Tom c'est quand même un grand symbole nord-américain. Donc je ne sais pas très bien pourquoi on a mis ce sous-titre non plus. Vie aventureuse, oui, et mal blanchie, en fait, on verra, ça ne correspond qu'à une partie de sa vie, c'est au moment où elle a découvert les préjugés contre les gens de couleur à Londres, au milieu du 19e siècle. Mais en fait, ces préjugés, elle ne les avait pas connus dans sa Jamaïque natale.
Mais est-ce que tu lis le résumé derrière, quand tu vois ça? Parce que comment savoir que l'auteur est une femme noire? Est-ce que tu lis quand même malgré tout le résumé au dos du livre ou bien?
À ce moment-là,
pour toi, pour choisir.
Non, à ce moment-là, je ne l'ai pas lu, non. Non, non, j'ai pris le livre sur la couverture, sur la partie de dessus, mais où il y avait effectivement cousine de l'oncle Tom quand même. Bon, j'ai compris que c'était une... Mais je ne savais même pas que c'était une Jamaïcaine. J'ai tout découvert après, mais j'étais enchantée, alors tu verras.
Alors Annette, c'est un tout autre choix. Ce n'est pas du tout la surprise, c'est au contraire le choix de la fidélité que tu as fait, toi.
Voilà, tout à fait. Et un choix, disons, un petit peu d'observatrice, évidemment, des nouveautés de la librairie, puisque j'y suis régulièrement chaque semaine. Donc, c'est toujours un plaisir de chercher un petit peu les nouveaux livres. Et évidemment, ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est le nom de l'auteur, Rosetta Loy, ou Loy, je ne sais pas très bien comment prononcer, qui est une auteure italienne que je connais, dont j'ai d'ailleurs parlé déjà deux fois dans ces émissions et que j'ai énormément apprécié. Donc le titre faisait tout de suite rêver, Rêve d'hiver. Le livre avait aussi, enfin, a une qualité de typographie qui est très particulière. Et c'est aussi un objet physique, un livre. J'ai tout de suite eu envie de l'ouvrir, de regarder exactement quel était le genre de l'impression, des caractères. Et il n'y a pas de résumé, il y a simplement quelques phrases pour situer quelques personnages. Mais manifestement, on se rend compte que c'est un grand roman. Mais surtout, j'avais envie de le lire parce que je connais Rosetta Loy et que j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de plaisir à la trouver, à la rencontrer. Et c'était effectivement des retrouvailles.
Alors, on en reparlera tout à l'heure, entre autres, des deux autres livres dont tu nous avais déjà parlé dans cette émission, effectivement. Alors, moi, j'avais envie de vous parler très, très superficiellement parce que je ne suis pas comme nos deux amies de l'inédite qui préparent toujours tellement bien, qui se documentent si bien sur les livres dont elles nous parlent. Mais j'ai aussi l'occasion de découvrir un livre tout à fait par hasard comme ça. Alors, je vous ai un petit peu fait des infidélités parce que j'étais dans une autre librairie de femmes à ce moment-là. J'étais au Festival de Créteil, Festival international de films de femmes à Paris.
Et il y a où ?
Et il y a aussi une librairie de femmes qui est tenue par des femmes durant le festival. Et s'il y a beaucoup de films, de livres consacrés au cinéma, malgré tout, il y en a d'autres. Et il y en a un qui a attiré mon attention parce qu'il y avait un bandeau en travers du livre dont le titre ne m'inspirait pas du tout, Rêver en Cuba, roman. Mais là, le bandeau disait « Un éblouissement, à la fois le charme intimisme de Tchekhov et la magie de Gabriel Garcia Marquez ». Alors là, ça n'a fait tilt dans ma tête immédiatement. Je me dis « Comment on compare cette femme à Gabriel Garcia Marquez, ça doit être quelque chose de génial. » Et du coup, j'ai emmené en plus Cuba, j'avoue que je suis très intriguée. J'aimerais savoir ce qui se passe là-bas. C'est le seul petit point de résistance encore dans ce bas monde. Je me suis dit, malgré tout ce qu'on raconte sur Cuba, est-ce que je vais enfin en savoir beaucoup plus sur Cuba? Et je n'ai pas été déçue non plus, parce que c'est une très belle saga. Et c'est vrai, il y a quelque chose de Garcia Marquez dans l'histoire au féminin. Alors, on va se lancer dans toutes nos histoires respectives. Merci. Alors, qui d'entre vous veut nous faire partager d'abord sa découverte?
On suit l'ordre chronologique.
Je pourrais commencer. Idée, pourquoi pas? Alors, 1805-1881, Je suis une mâle blanchie.
De Mary Seacole. Donc, c'est un livre d'une femme auteur qui ne pensait pas être jamais une femme écrivain. Elle est devenue écrivain tout à fait par hasard et elle est l'écrivaine d'un seul livre, qui sont ses mémoires, entre l'année 1850 et l'année 1857-58. Mais disons que ça retrace une dizaine d'années de sa vie active avec quelques souvenirs d'enfance et de sa vie de femme avant, puisqu'elle écrit ce livre quand elle est près de la cinquantaine. Et donc, elle ne pensait pas l'écrire, elle l'a plutôt écrit pour se... se sortir de difficultés financières, justement à la fin de la guerre de Crimée, et on verra pourquoi elle y est allée. Et ça a été la première raison pour laquelle elle a écrit ses mémoires, c'était pour faire un peu d'argent. On les a publiées une fois, elle avait une certaine notoriété à l'époque, à Londres. Et puis le livre est retombé dans l'oubli, et c'est il y a une dizaine d'années que des éditeurs anglais l'ont ressorti, l'ont republié en anglais, et on vient de le traduire en français. Et donc, il a un intérêt, je dirais, sociologique, très clair, parce qu'il nous raconte une tranche d'histoire, et puis une manière de voir l'Amérique centrale au milieu du 19e siècle, et un aspect de la guerre de Crimée à la même époque. Donc il y a un témoignage historique, sociologique intéressant. Mais en même temps, il y a une nature, il y a une personne très attachante qui écrit. Et donc ça va au-delà du témoignage. Ça devient un auteur qui écrit. Mais elle n'a pas écrit d'autre chose. Donc. Et on pourrait parler un petit peu de sa vie et de l'endroit où elle est née. Donc c'est la Jamaïque, qui à l'époque est une île qui est colonisée par les Anglais, après avoir été découverte, entre guillemets, par les Espagnols, juste après le premier voyage de Colomb. Époque à laquelle elle était habitée par des Indiens Arawak. Et d'ailleurs, j'ai appris là que le nom de Jamaïque venait d'un nom Arawak, donc des Indiens qui l'habitaient au début, le nom qui est Jamaïque, et qui voulait dire l'île au printemps. Ce qui veut tout dire, c'était une île de climat délicieux. Et c'est devenu une île avec le trafic négrier d'Afrique en Amérique, qui était pratiquement un des plus grands marchés d'esclaves du monde. Et donc et là, on passait beaucoup d'esclaves qui allaient sur le continent, la terre ferme, comme on disait, enfin l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord. Et puis aussi, beaucoup d'habitants africains sont restés. Et jusqu'en 1807, date à laquelle on a aboli le commerce négrier, et 1833, date à laquelle on a aboli l'esclavage en Jamaïque, et puis dans tous les territoires anglais, on a eu donc des esclaves. Mais Mary Seacole est née d'un père écossais et d'une mère qui était déjà la fille d'un affranchi. Donc elle n'a pas connu l'esclavage, ni sa mère. Elle est donc une femme qui est née dans la liberté et qui n'a pas d'ancienne frustration ou de sentiment d'infériorité ou quoi que ce soit relatif à l'esclavage. Elle sait bien que ses congénères ont été esclaves, elle en a même connu encore de son vivant, mais elle en parle, mais elle ne se sent pas vraiment, c'est curieux, pas vraiment membre de cette communauté, pas non plus détachée ou méprisante par rapport à cette communauté, mais différente. Sa vie est différente depuis le début. Donc, c'est une femme libre, elle a été bien élevée, elle a côtoyé beaucoup d'Anglais qui étaient des soldats venus en régiment en Jamaïque et qui habitaient très souvent dans la maison de sa mère, qui était une maison de convalescence, parce que les soldats tombaient souvent malades aux colonies, ils avaient la malaria, ils supportaient pas les chaleurs, ils supportaient pas le choléra, etc. Donc, ils étaient souvent malades, et la mère de Mary Seacole tenait une maison de convalescence, qui était une pension de famille aussi. Donc, c'était une hôtelière et en même temps un peu une infirmière. Et donc, la jeune Mary a côtoyé ces personnages européens et s'est fait une éducation européenne à leur côté, ou en les côtoyant. Puis, d'un autre côté, elle avait sa mère et elle a appris de sa mère à être une bonne hôtelière, à être une bonne commerçante, à être une bonne infirmière, et même plus qu'une infirmière, parce que le fait de rencontrer très souvent des médecins militaires et de leur demander de leur poser des tas de questions au sujet de la médecine, de leur connaissance et tout ça, lui l'a fait avancer assez loin dans ses études médicales. Donc elle était devenue, dans la cinquantaine, quand on la rencontre au début de ses mémoires, c'est une femme qui est à la fois une très bonne commerçante et puis une très bonne infirmière guérisseuse et qui a envie, qui s'est déjà, qui a traîné ses savates déjà dans beaucoup d'îles des Caraïbes pour faire du commerce, pour faire de l'argent, mais qui a envie d'aller plus loin. Et elle commence ses mémoires au moment où elle décide d'aller à Panama, rejoindre un de ses frères qui a ouvert un hôtel et qui lui a dit qu'il faisait beaucoup d'argent et qu'il était très content. Et elle est poussée un peu par son désir d'aventure, sa soif d'inconnu. On est vraiment au milieu du 19e siècle. Elle va à Panama. Panama, encore aujourd'hui, c'est un endroit assez, je dirais pas fréquentable, c'est pas ça, mais c'est quand même un endroit où il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup d'aventures. Au milieu du 19e siècle, c'était bien pire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous en lire un petit extrait de ce qu'elle nous raconte pour que vous voyez un peu l'humour qu'elle a, la verve et la manière un peu malicieuse dont elle raconte ce qu'elle voit, d'une part, et puis aussi pour faire un portrait de ce qu'on pouvait trouver à Panama à l'époque. Panama faisait partie de la Colombie actuelle, c'est-à-dire à l'époque ça s'appelait pas encore la Colombie, c'était la Nouvelle-Grenade, qui avait été donc libéré par Simon Bolivar, et le Panama faisait encore partie de ce territoire à l'époque, était très fier de sa nouvelle indépendance, et il n'y avait plus d'esclaves, donc en Nouvelle-Grenade et au Panama. Mais par contre, il y avait des chercheurs d'or qui allaient chercher de l'or en Californie, et il y avait deux routes, on peut dire, deux fils de gens qui se croisaient à Panama. Il y avait ceux qui venaient de la côte est des États-Unis et qui allaient en Californie pour faire fortune. Et puis, il y avait ceux qui revenaient de Californie, ayant trouvé ou n'ayant pas trouvé de l'or, et qui rentraient sur la côte est des États-Unis. Parce qu'à l'époque, on préférait passer, faire le voyage comme ça, que traverser les grandes plaines du Far West.
Et rencontrer les Indiens.
Voilà, qui étaient des routes très, encore plus inquiétantes et encore plus déroutantes. Alors, ils préféraient faire de la navigation. Et puis, traverser l'isthme de Panama à pied.
Mais Annette, ce n'est pas l'histoire de Fanny Stevenson, ça.
Ça me rappelle tout à fait l'histoire de Fanny Stevenson. Et effectivement, il semble qu'il lui est arrivé dans ce fameux isthme de Panama quelque chose d'absolument épouvantable. C'est effleuré vaguement par la biographe. Fanny Stevenson n'a jamais raconté vraiment ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Mais ça devait être, en tout cas, le contraire d'une villégiature.
Alors là, on va en savoir un petit peu plus parce que visiblement, Mary Sickle raconte un peu plus sa vie à Panama que ne nous l'avait raconté Fanny Stevenson ou la biographe de Fanny Stevenson.
Ah oui, elle raconte ça de façon truculente. Moi, je vous lirai peut-être juste un petit passage pour vous raconter son arrivée dans une petite bourgade qui s'appelle Cruces. Le sympathique lecteur qui s'est amusé de mes malheurs peut sans difficulté imaginer avec quelle impatience fébrile je songeais à la quiétude familiale de la maison de mon frère à Cruces. Après des heures de jeûne et une longue nuit passée à bord de ce bateau de misère dans une robe raide de boue séchée, l'accueil de l'Independent Hotel ne pouvait être que délicieux. Mon frère, très heureux de me voir, m'accueillit chaleureusement sur le quai branlant, sans pouvoir dissimuler cependant le sourire que lui inspirait mon étrange apparence. Donnant les instructions nécessaires au transport de mes bagages, il me conduisit vers sa maison, qui se trouvait au bout de la montée. « Un emplacement de choix, me dit-il, surtout quand le reste de la ville était sous les eaux, joyeuse circonstance qui se présentait deux ou trois fois l'an, sans que rien puisse le laisser prévoir. » En chemin, il ne se fit pas faute de tempérer mon enthousiasme, exprimant ses craintes d'être incapable d'offrir à sa sœur une hospitalité décente. « Vois-tu, dit-il, la foule en provenance de Panama vient juste de débarquer et rencontre ici celle qui vient avec toi de Navy Bay. Je ne serais pas surpris que beaucoup aient à se contenter du plancher pour dormir. » Mais en dépit de ces avertissements, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Cruces était sans conteste tout à fait comparable à Gorgona quant à l'humidité, la saleté, le désordre. Toutefois, l'endroit était plus animé. Une des deux vagues des migrants arrivait des terrains aurifères de Californie, ayant fait le trajet à dos de mule depuis Panama, et les rues étaient encombrées de gens attifés de la plus pittoresque manière. Les hôtels aussi en étaient pleins, et beaucoup de voyageurs étaient allongés sous les vérandas, se reposant de leur périple. Des chercheurs d'or, brutaux et grossiers, vêtus de chemises aux couleurs vives et chaussés de hautes et solides bottes, côtoyaient, sur un pied d'absolue égalité, de perspicaces hommes d'affaires yankees, aussi propres et rasés de près que s'ils se trouvaient dans les rues de New York ou de la Nouvelle-Orléans. Seules les femmes prenaient garde de ne pas se fréquenter d'un milieu à l'autre. Bien leur en prenait d'ailleurs, car si certaines se comportaient comme de vraies dames, la plupart ne différaient guère de leurs compagnons mâles, si ce n'est par une voix plus vigoureuse et des manières plus impudentes encore. Je me dois de préciser cependant que beaucoup d'entre elles n'adoptaient le costume masculin que pour la seule traversée de l'isthme, de manière à s'épargner cette sorte de compliment que les marines n'apprécient guère, aussi flatteur soit-il. Gelée, ankylosée, affamée, je me faufilais dans cette foule jusqu'à l'Independent Hotel, empressée de trouver un peu de confort. Enfin, nous arrivâmes. Repos, chaleur, confort, misérables illusions. Imaginez, sympathique lecteur, un grand baraquement, bas de plafond, en rondin mal équarri et mal jointoyé, par un torchis de bambou et de boue mêlée, un long toit pentu et une large véranda bondée de gens. À l'intérieur, une pièce, tout en longueur, tendue d'un calicot sale à rayures rouges et blanches. À l'étage, une autre pièce, où dormaient les clients, avec le privilège de pouvoir assister aux orgies qui se déroulaient en dessous, par les interstices laissés entre les lattes disjointes du plancher. Au bout, un coin sommairement isolé du reste formait un bar, avec des étagères croulant de provisions destinées à la vente. Encore derrière, la petite pièce que mon frère utilisait comme appartement privé, mais qu'il venait de louer pour la nuit à trois voyageuses, contre l'exorbitante somme de 10 livres, prix à payer pour un luxe aussi exclusif. À l'entrée de l'hôtel se tenait un noir qui distribuait aux clients, en échange d'une pièce ou de poussière d'or qu'il pesait sur une balance rouillée, un ticket valable pour un souper, une nuit et un petit déjeuner. J'embrassais tout cela d'un coup d'œil, puis je me tournai vers mon frère partagé entre le désespoir et la colère. « Mais que vais-je faire ? Pourquoi donc m'as-tu fait venir ici ? Regarde dans quel état je suis. J'ai froid, j'ai faim, je suis fatiguée. Je veux me laver, changer de vêtements, manger. » Le pauvre Edvard ne pouvait que hausser les épaules et secouer la tête en guise de réponse. Enfin, il m'aménagea un coin de bar grouillant de consommateurs, me donna un repas et me laissa au spectacle de l'étrange humanité à laquelle j'étais venue me mêler. Bientôt, j'eus oublié tous mes griefs, tant la situation était originale. La différence entre ceux qui revenaient de Californie et ceux qui s'y rendaient était évidente. Ces derniers, encore plus ou moins civilisés, se tenaient à peu près correctement. Leurs femmes, bien que visiblement habituées à une vie de licence, gardaient une apparence décente. Les premiers, en revanche, avaient abandonné tout empire sur eux-mêmes et se laissaient aller de la plus dégoûtante façon. Les épouses des chercheurs d'or, heureux, ne semblaient guère pressées de retrouver le costume et les usages de leur sexe. Beaucoup étaient vêtus, comme les hommes, d'une chemise de flanelle, de bottes, et montaient leurs mules à califourchon et non en amazone, avec une grande aisance et une grande habileté. Leur conversation rivalisait de grossièreté avec celle de leurs compagnons. Évidemment, ces écrivains femmes françaises qui aspirent aux privilèges masculins tout en conservant l'irresponsabilité de notre sexe auraient été enchantées de voir leurs principes si bien mis en pratique dans les rues de Cruces. Ça doit être George Sand, hein, je ne sais pas. La préoccupation essentielle de tous les voyageurs était de dîner ou de souper, je ne sais quel terme ils employaient. Sur toute la longueur de l'Independent Hotel courait une table couverte d'une toile cirée verte. À intervalles réguliers étaient disposées assiettes, couverts et tasses, le tout retourné. Quand un nouveau venu recevait son ticket et souhaitait s'assurer une place pour le repas à venir, il mettait une assiette et une tasse dans le bon sens. Ce mode de réservation semblait être unanimement respecté. À la tombée de la nuit, les cris et les querelles formulées en argot yankee redoublèrent d'intensité. Certains s'étaient assis à table et martelaient le bois de leurs couteaux, interpellant les cuisiniers noirs pourtant bien agités afin qu'ils accélèrent encore le mouvement. Au sein de cette confusion, mon frère continuait tranquillement à vendre chemises, bottes, pantalons, etc. aux voyageurs. dominant le tapage, résonnaient les hurlements des rabatteurs cherchant à attirer l'attention des passants sur la qualité de la nourriture de l'Independent Hotel. Combien de fois, réfugié dans mon recoin discret, essayant d'ignorer le spectacle, souhaitais-je être loin dans ma jolie maison de Kingston. Hélas, il est trop tard pour me demander comment j'avais pu commettre pareille erreur.
Oui, oui, alors elle a un vocabulaire, elle a des images, il y a de quoi faire, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Annette?
Oui, ça a l'air assez sympa. Ça a l'air très sympa, effectivement. Et, comme disait Evelyne, c'est le vocabulaire truculent qui domine.
Elle est vraiment très imagée. Quand on s'y sent, on vit avec elle son arrivée dans cet immense machin. Ça doit être épouvantable, effectivement.
Et son éditeur n'a pas voulu changer sa langue, donc pour garder sa fraîcheur et sa, je sais pas, son authenticité. Son éditeur anglais le premier, et puis les suivants non plus.
Visiblement, la traduction doit être aussi bien faite, parce qu'en français, on garde ce pétillant, qu'on ne se dit pas tout le temps comment ils ont dit ça. Des fois, ça ne vous arrive pas. Comment ils ont dû dire ça dans la langue originale? C'est tellement plat. Enfin, des fois, on se demande, quoi. Et là, on se dit, ah, quand tu disais tout à l'heure, la maison comment c'était, juxtapositionnée. Enfin, je ne sais pas, il y avait...
Jointoyée.
C'est que vous étiez trop et ça. Effectivement. Mais alors, Evelyne, comment cette femme se baladait-elle seule de la Jamaïque jusqu'à Panama? Fanny Stevenson, elle allait à la recherche de son mari, mais elle était déjà assez visée du doigt des gens à bonne conscience. Alors, notre Mary Seacole, elle pouvait se balader comme ça. Son statut d'infirmière la protégeait du regard et des doigts pointés?
Certainement, mais de toute façon, à l'époque où elle fait ce voyage, c'est déjà une matrone. Elle est bien en chair, c'est une femme donc dans la cinquantaine. À cette époque-là, ça voulait dire une femme d'un âge certain, bien qu'elle soit très vive, très active, très, très forte, mais elle est forte, donc c'est certainement plus une femme séduisante qui va attirer le regard. Par contre, alors, ses dons et ses qualités d'infirmière vont être tout de suite reconnues. D'ailleurs, elle va faire très peu de commerce. Elle va effectivement avoir un hôtel, mais on va lui demander beaucoup plus de soigner que de donner à manger. Et elle va se faire une réputation extraordinaire dans cette région. Et elle aurait pu y rester. Mais au bout de 4 ans, elle en a marre du climat qui est très humide. Elle en a marre des épidémies. Elle fait 2 épidémies de choléra. Elle survit alors que il y a beaucoup beaucoup de morts autour d'elle qu'elle soigne. Donc elle en a marre. Elle s'en va. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide d'aller en Crimée rejoindre le corps des infirmières anglaises. Pour soigner les soldats français et anglais qui se battent contre les Russes en faisant le siège de Sébastopol.
Donc la Crimée, tu nous rappelles géographiquement où ça se trouve? C'est dans le nord de la Russie, c'est ça?
C'est très en actualité ces jours, parce que tu n'as pas entendu, la Crimée la dispute la Russie et l'Ukraine, parce que c'est sur les bords de la mer Noire.
C'est la mer Noire.
Et ça a été longtemps la région de villégiature des Russes, des apparachniks de l'Union soviétique. Et puis aujourd'hui, ils se la disputent pour la flotte aussi, qui se trouve sur la mer Noire. Enfin bref, à l'époque, les Français et les Anglais étaient là pour contrer les ambitions des Russes qui mordaient sur ce qui était à l'époque l'Empire ottoman. Et c'était une de ces sales guerres déjà à l'époque. C'était un peu une guerre de tranchées où sont morts beaucoup de gens, probablement pour rien du tout. Mais en tout cas, il y avait les soldats étaient en mauvaise. Ils manquaient de soins, ils manquaient d'infirmières, ils manquaient de médecins. C'est d'ailleurs là qu'il y a la fameuse épopée de Florence Nightingale.
Hein, une des fondatrices de la Croix-Rouge, l'idéal CICR.
Voilà, alors Mary Seacole se sent, d'abord s'est toujours sentie anglaise, et bien que sachant très bien qu'elle n'est pas une anglaise blanche comme ceux de la métropole, elle connaissait l'Angleterre, elle était allée déjà 2 fois. Et donc décide d'aller rejoindre le corps des infirmières. Donc elle va à Londres et elle se présente chez une grande dame de la
société, la bonne société
la
bourgeoise.
Bonne société, voilà, londonienne, et qui s'occupe, je ne sais plus si c'est l'épouse du ministre de la guerre, ou je ne sais pas quoi, d'un des ministres en tout cas, mais en tout cas, elle s'occupe d'envoyer ses infirmières sur le front, et donc elle fait l'antichambre, Mary Seacole, de cette femme, pour être admise dans le corps des infirmières. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle est une mal blanchie et qu'on a des préjugés contre elle. Mais elle ne le dit pas, elle le dit avec humour dans son livre, elle dit simplement, mais j'ai été obligée, on m'a fini après 3 tentatives, on a fini par me dire que vraiment le corps d'infirmière était complet, donc je ne pouvais pas y aller. Mais est-ce possible que les préjugés des Yankees aient pénétré jusque-là? Elle dit ça comme ça, elle accuse pas plus que ça.
In my day to day.